Bonjour à tous, aujourd'hui, en cette belle journée, des élèves de 4e du collège Léo Delibes vont vous présenter des chroniques sur l'art et la musique. Commençons tout de suite avec Dorian et Raphaël qui vont vous dévoiler les secrets de création des Marvel.
Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre rubrique culture. Nous allons vous parler des films Marvel qui, pour moi, sont les meilleurs.
Bonjour, j'aimerais vous parler tout d'abord de l'histoire de Marvel, en commençant par son créateur, Stan Lee.
Pouvez-vous nous en dire plus sur cette personne ?
Oui, bien sûr. Stanley Lieber, ou Stan Lee, est un acteur, auteur, producteur. Il est né le 28 décembre 1922 à New York, aux États-Unis, et est mort le 12 novembre 2018.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ses héros et depuis quand ils existent ?
En 1939, Martin Goodman va créer ses premiers héros. La Torche Humaine, nettement le Submariné et Captain America.
D'accord, tout le monde connaît Captain America et la Torche Humaine. Concernant l'histoire des Marvel, pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Dans les années 1960, Timely Comics, devenu Atlas, se renomme Marvel. À ce moment-là, Justice League, DC Comics, connaît un succès international. C'est à ce moment que Stan Lee décide de s'inspirer de DC Comics pour créer une équipe de super-héros pour Marvel. Ce seront les 4 Fantastiques.
Ce serait donc après que plusieurs autres héros seraient nés comme Iron Man ou Hulk.
Effectivement, il y a également Thor, Daredevil et d'autres encore.
Il y a un héros qui a particulièrement marqué le public, c'est Spider-Man. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur lui ?
Il est vrai que Spider-Man est le héros préféré, car beaucoup de gens peuvent s'identifier à lui. C'est l'histoire de Peter Parker, un orphelin qui a été mordu par une araignée génétiquement modifiée, et va alors développer des super-pouvoirs.
Y a-t-il d'autres héros qui ont autant marqué le public que Spider-Man ?
Oui, il y a aussi Iron Man, qui est un milliardaire. Il est capturé par des insurgés lors d'une mission en Afghanistan, qui le force à travailler pour eux.
D'accord. Je connais aussi d'autres héros comme Black Widow, Doctor Strange, Black Panther et Captain Marvel.
Oui, mais il y en a trop pour tous les citer. Je voulais aussi vous parler de quelques films Marvel, comme les Avengers, qui rassemblent la plupart des héros dont on a parlé.
D'accord. Donc, quel est votre film et votre héros préféré ?
Mon héros préféré est Iron Man, car c'est un personnage drôle et arrogant qui est très intelligent. Et durant l'histoire, sa technologie et ses armures s'améliorent. Mon film préféré, ce serait Avengers Infinity War, car je trouve l'histoire intéressante et parfois triste. Je trouve aussi les combats géniaux.
Merci. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Marvel a été créé en 1936 et que c'est Stan Lee qui décide de s'inspirer de DC Comics pour créer une équipe de super-héros pour Marvel.
Effectivement.
J'ai une dernière question. Est-ce que la série Marvel a eu des Oscars ?
Oui, il y a Black Panther qui a eu l'Oscar des meilleurs décors. Il a aussi eu l'Oscar de la meilleure création de costumes et l'Oscar de la meilleure musique de film.
Très bien. Ambre et Enola vont pouvoir nous en dire un peu plus sur les Oscars. Merci à vous.
Bonjour et bienvenue sur Fréquence CIE. Vous connaissez tous la célèbre cérémonie des Oscars qui décerne chaque année de nombreuses récompenses cinématographiques américaines. Justement, aujourd'hui, nous allons vous parler de cet événement à l'occasion de la 94e cérémonie qui s'est déroulée le 27 mars dernier. Tout d'abord, nous allons vous expliquer à qui et comment sont décernés les Oscars.
Effectivement, c'est en fait plutôt simple. Ces récompenses sont attribuées aux films et aux personnes qui contribuent et interviennent aux meilleures réalisations, ouvrages et travaux artistiques de l'année aux yeux de l'Académie.
Très bien, maintenant nous allons faire un petit point sur la création de l'Académie des Oscars. Attention, tenez-vous bien, voici son vrai nom. L'Academy of Motion Picture Art and Science, une association dédiée à la promotion et la préservation mondiale du cinéma, a été créée en 1927 par Louis Burtmeyer, qui à l'époque était patron. Et oui, de Metro-Goldwyn-Mayer, la fameuse entreprise de cinéma et de télévision.
Venons-en au processus de vote. Tous les électeurs des Oscars doivent être membres de l'Académie située à Los Angeles. Il faut également qu'ils soient des professionnels accomplis du cinéma et qu'ils soient issus d'une des 17 branches de l'industrie. On connaît les comédiens, les créateurs de costumes, les créateurs d'effets spéciaux, les directeurs de casting, mais il y en a tellement que nous n'allons pas tout citer. Mais savez-vous qu'on récompense aussi une 18e branche, faite pour les personnalités n'étant concernées pour aucune de ces 17 branches comme les cascadeurs ?
Exactement, Enola, tous les vainqueurs recevront un trophée muni d'un chevalier sur un socle, debout sur une bobine de film et tenant une épée. Ce trophée est fait en britannium et il est plaqué d'or. Il a été dessiné par Cédric Gibbon et a été sculpté par George Stanley. Ce petit trophée fait son petit poids car il pèse 3 kg. Il mesure 34 cm et la fine couche d'or recouvrant le trophée est de 24 carats. Mais d'ailleurs, savez-vous comment se déroule la cérémonie ? Peut-être pas. Je vais donc laisser la parole à Enola pour éclaircir ce sujet.
Merci Ambre. Venons-en aux faits. La première cérémonie présidée par Douglas Fairbanks s'est déroulée en 1929 à l'Hollywood Roosevelt Hotel sous forme de banquet. Il a réuni 270 personnes pour durer seulement 10 minutes. Mais réunissant toujours plus de monde, la formule est abandonnée en 1944 pour une remise plus traditionnelle au Grauman's Chinese Theatre d'Hollywood. Depuis 1934, la cérémonie a lieu en début d'année, un peu plus d'un mois après l'annonce des nominations par le président de l'Académie.
Bien, maintenant parlons des événements qui ont marqué la soirée de la 94e cérémonie des Oscars. C'est le film Coda, parfait remake de la famille Bélier, qui a été élu meilleur film de l'année. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'une famille de pêcheurs, les Rossi. Ruby est le seul membre de la famille à ne pas être sourd. Ruby s'évade un peu de sa famille grâce à la chorale du lycée.
Ce film a l'air vraiment bien, mais ce n'est sûrement pas cet événement qui a marqué le plus cette histoire. En effet, le célèbre Will Smith est monté sur scène pour asséner une gifle à Chris Rock, un humoriste et animateur connu. Chris a fait une mauvaise plaisanterie sur les cheveux de la femme de Will Smith atteinte d'alopécie. Le célèbre acteur est donc banni pendant 10 ans de quelconque événement, programme ou cérémonie de l'Académie. Revenons sur les nominations. Ariana DeBose a remporté son premier Oscar pour ce rôle dans... Et oui, c'est bien West Side Story, c'est la première fois dans l'histoire des Oscars qu'une jeune femme afro-latina en remportait un. Laissons maintenant la parole à Lilou, Léane et Luna, qui vont vous parler des séries les plus aimées.
Quel âge avez-vous ? Quelle était votre série quand vous étiez jeune ?
Quand j'étais jeune, alors toute jeune, je regardais La Petite Maison dans la Prairie. Et quand j'étais ado, j'étais une grosse fan de MacGyver, Le Prince de Bel-Air, Hartley Cœur à Vif, voilà, toutes les séries pour ados. Mais j'avoue que j'avais un gros faible pour MacGyver.
Et moi, quand j'étais ado, ma série préférée, c'était Le Prince de Bel-Air, Will Smith.
Et ma série préférée, c'était MacGyver.
Vous souvenez-vous des séries télé les plus vues au monde des années 70 à 2000 ? Je suis sûre que cela va vous rappeler de bons souvenirs. Reconnaissez-vous cet extrait de générique ? Et oui, c'est bien, Les Feux de l'Amour. En 1970, Les Feux de l'Amour, c'est un feuilleton télévisé américain créé par Joseph Bell, qui est toujours diffusé aujourd'hui. C'est l'histoire de deux familles des États-Unis qui sont en rivalité et qui continuent de passionner les gens. Ensuite, il y a La Petite Maison dans la Prairie, série culte qui a marqué les spectateurs au fil des années, et qui a duré pas moins de 9 ans, de 1974 à 1983, et qui a été rediffusée les années suivantes. La Petite Maison dans la Prairie raconte l'histoire d'une famille de pionniers s'installant dans le Minnesota, au 19e siècle. Elle raconte la vraie enfance et la vraie vie de Laura Ingalls Wilder. Pour votre plus grand plaisir, voici un extrait du générique.
Alors reconnaissez-vous celui-là ? Eh bien oui, dans la fin des années 70, on a adoré Starsky et Hutch, une série policière passionnante, avant-gardiste, qui a osé aborder certains thèmes, comme l'homosexualité et a mis en avant les minorités. Cette série met en scène deux policiers vivant dans une ville imaginaire située en Californie, les courses-poursuites sont leur domaine. On continue avec les années 80, où la série américaine L'Agence Touriste a marqué tous les esprits. C'est une série populaire diffusée en 83 et réalisée par Frank Lupo. Elle se passe pendant la guerre du Vietnam. Ces années 80 ont été marquées également par MacGyver qui a eu un succès énorme auprès des téléspectateurs, fans d'aventure et d'espionnage. Ce personnage était incroyable car il pouvait créer n'importe quoi avec trois fois rien. Voici un autre succès incontournable des années 90. Avez-vous toujours en mémoire son générique ? This is a story all about how my life got-
got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
Le prince de Bel-Air, bien sûr, qui met en scène Will Smith, jouant le rôle d'un ado qui a grandi dans un quartier difficile des États-Unis et qui se réfugie chez son oncle et sa tante habitant d'un quartier chic. C'était une série qui faisait beaucoup rire quand on avait d'un côté le personnage de Carlton qui était prétentieux et parfois ridicule par ses habits de premier de la classe et son cousin Will qui venait d'une banlieue pauvre et qui était en plein décalage avec sa famille.
N'oublions pas Friends, autre série cultissime qui a fait fureur et qui a été rediffusée plein de fois. Friends est mondialement connu pour les péripéties qui vont vivre un groupe de 6 amis new-yorkais vivant en colocation. Bon allez, pour le plaisir, un court extrait. Dans les années 2000, 24 heures chrono, une série policière de Joël Surnau et Robert Cochrane raconte les journées des membres d'une agence fictive luttant contre des attaques terroristes aux États-Unis qui a eu beaucoup de succès. Pour terminer, The série française, ne serait-ce pour sa durée, plus belle la vie. Plus belle la vie, qui est suivie par beaucoup de gens, parle du quotidien des habitants d'un quartier fictif de Marseille. Après 18 ans de diffusion, la série s'arrête, mais les fans peuvent garder espoir, car selon Téléstar, ce jeudi 5 mai, France Télévisions a annoncé l'arrêt définitif de Plus belle la vie. Mais la série culte de France 3 pourrait toutefois renaître un jour de ses cendres sur une autre chaîne, comme l'a révélé son producteur dans un entretien accordé aux Parisiens. Et les plus jeunes, qu'est-ce qu'ils regardent? Voici un petit micro-trottoir sur les goûts de nos camarades.
Ma série préférée est Teen Wolf.
Série préférée et scène de ménage.
Série préférée, c'est Riverdale.
Nous laissons la place à Marie-Mathilde et Kimia qui vont vous parler des coups de cœur actuels.
Vous êtes avec Marie-Mathilde et moi-même Kimia. Et nous allons vous parler des séries télé et des films les plus regardés entre 2021 et 2022.
En premier, nous allons parler des mangas animés que beaucoup de personnes ont aimés. En effet, les gens ont apprécié découvrir la culture japonaise, par exemple leur vision de l'école qui est différente, leurs valeurs comme le respect et l'honnêteté, leur façon de tomber amoureux. Par exemple, on peut citer My Hero Academia. C'est l'histoire d'Izuku Midoriya, qui est un fan absolu d'un grand super-héros qui s'appelle All Might. Il n'a qu'un rêve, entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Le problème, c'est qu'il fait partie des 20% qui n'ont aucun pouvoir. Son destin est bouleversé le jour où sa route croise celle d'All Might en personne. Sa vie prendra une autre ampleur.
Parlons maintenant d'un autre manga qui a beaucoup eu de succès, Tokyo Ghoul. À Tokyo, sévissent des ghouls monstres cannibales se dissimulant parmi les humains pour mieux s'en nourrir. Étudiant timide, Ken Kaneki est plus intéressé par les jolies filles qui partagent ses goûts par la lecture que par ses affaires sordides. Jusqu'au jour, il se fait attaquer par l'une de ces fameuses créatures. Sa vie sera tourmentée.
Voici un dernier titre qui a beaucoup plu, Demon Slayer. Cela se passe au Japon au début du XXe siècle. Un petit marchand de charbon nommé Tanjiro vit une vie sans histoire dans les montagnes. Jusqu'au jour tragique où, après une courte absence, il retrouve son village et sa famille massacrés par un démon. La seule survivante de cette tragédie est sa jeune sœur Nezuko. Dans ce manga, il y aura beaucoup de combats. Je passe la parole à Kimia qui va vous parler des K-dramas. Kimia, qu'est-ce qu'un K-drama ?
Eh bien, Marie-Mathilde, un K-drama est une série télévisée coréenne souvent basée sur une histoire romantique ou des drames. Les dramas permettent de faire découvrir la Corée, son mode de vie et sa culture à l'étranger. Je pense à Squid Game, le plus connu. Cette série raconte comment 456 marginaux surendettés vont devenir les joueurs d'une compétition fondée sur les jeux d'enfants. Les vainqueurs gagneront 33 millions d'euros. Ils découvriront un détail sur place. Seul le gagnant survivra aux épreuves mentales. Ce film est déconseillé au moins de 13 ans.
Ensuite, nous avons Vincenzo. C'est une comédie dramatique qui parle de Vincenzo Cassano qui, profitant d'une visite dans son pays natal, un avocat mafieux italo-coréen, s'attaque à un puissant conglomérat pharmaceutique et rend justice à sa mère, ce qui ne sera pas facile car ce conglomérat sera tenace.
Un troisième K-drama que nous avons beaucoup aimé. Voici My Name. My Name raconte l'histoire de Yoon Ji-woo, une jeune étudiante qui, une nuit, est témoin du meurtre de son père. Elle décide de rejoindre un groupe criminel qui est lié au réseau de drogue Jung Chun-pa pour retrouver l'assassin de son père. Lorsqu'elle retrouvera l'assassin de son père, elle sera surprise et triste.
Et pour finir, nous allons vous parler de notre dernier coup de cœur, un film américain. Ce film est destiné aux personnes fans d'horreur, sans un bruit d'eux.
Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbott doit faire face aux dangers du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence, ce qui ne sera pas facile. Il y a des films et des séries qui n'ont pas été citées.
Et pour finir, nous laissons la parole aux filles qui vous parleront de Coco Chanel, une femme remarquable qui a souvent été représentée dans les films.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une grande féministe.
Coco Chanel, Gabrielle Chanel de son vrai nom, était une grande féministe ainsi qu'une grande créatrice de mode. Née un après-midi du 19 août 1883 à Saumur.
Elle grandira entourée de ses frères et sœurs jusqu'à la mort de sa mère, à ses 12 ans. Elle sera donc placée dans une abbaye avec ses deux sœurs.
Alors que ses frères, eux, ont été placés comme hommes à tout faire. Gabrielle apprendra la couture avec les religieuses. C'est de là que naît sa grande passion. Elle s'est inspirée des vitraux de l'église pour son fameux logo.
Elle s'inspire aussi des vêtements sombres des religieuses. En 1907, elle chante « Qui c'est qu'a vu Coco ?» d'où lui vient son surnom.
Mais elle préférait toujours dire que c'était son père qui le lui avait donné.
Voulant travailler pour gagner sa liberté, elle tomba amoureuse d'un Anglais, Boy Capel.
Avec lequel elle ouvrira sa première maison de couture à Paris. Malheureusement, il trouvera la mort dans un accident de voiture. Ce fut la première et dernière fois que l'on vit Gabrielle pleurer.
Elle décida de continuer ce que le duo avait commencé. Elle lança ensuite la mode du pantalon pour les femmes et inventa une marinière dans un style plus simple et plus confortable.
Son but était d'aider les femmes dans leur vie de tous les jours.
Elle permettra de faire avancer également la liberté des femmes en enlevant le corset. Elle avait une définition de l'élégance bien particulière.
Je ne comprends pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
Elle aimait qu'on la copie, car ça lui prouvait qu'elle faisait de belles créations.
Sa fascination pour le baroque et le noir lui offrira une grande place dans le monde de la mode.
Coco était l'exemple des femmes du XXe siècle, une femme libre.
Et elle l'est encore.
Elle n'accordait pas d'importance au jugement des autres personnes.
« Je n'en ai rien à faire de ce que pensez de moi. Moi, je ne pense pas du tout à vous », disait-elle.
Coco Chanel s'éteindra le 10 janvier 1971, à 88 ans, à l'hôtel du Ritz.
Cette petite paysanne d'Auvergne,
l'orpheline de l'abbaye d'Aubazine, restera pour toujours la reine de Paris.
Merci à tous de nous avoir écoutés.
Nous allons refermer cette chronique en vous souhaitant une agréable journée.
Et dans la culture, il n'y a pas que les films, il y a aussi les jeux vidéo. Tiefen et Dorian vont vous l'expliquer.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu vidéo incontournable de l'univers des années 90, Zelda Ocarina of Time. Avec moi, un expert de ce jeu, Aurélien, qui le connaît depuis qu'il est jeune. Bonjour Aurélien, peux-tu d'abord nous présenter Zelda Ocarina of Time ?
Bonjour à vous, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Zelda Ocarina of Time est un jeu qui mélange aventure et énigme. Il est sorti en 98 sur Nintendo 64, puis il a été réadapté sur tout un tas de consoles comme la 3DS, la Wii, la Wii U. Il a été très apprécié par les joueurs et il marque le début des Zelda en 3D.
Pouvez-vous nous rappeler l'histoire de ce jeu ?
Bien sûr, quand on apparaît avec le héros et qu'on commence l'aventure, on y découvre différents donjons et autres constructions à l'intérieur desquels des ennemis apparaissent. Le héros doit combattre les ennemis pour sauver la princesse nommée Zelda dans le but de délivrer le royaume du méchant nommé Ganondorf.
Qu'est-ce qui vous fait dire que ce jeu est bon ?
Je dirais que ce jeu est bon car la difficulté est bien dosée, l'histoire est passionnante, les énigmes sont diversifiées. La série Zelda a vendu plus de 94,73 millions de jeux par ailleurs dans le monde avec un avis des joueurs très positif.
Comment est l'univers de ce jeu ?
C'est un jeu d'aventure et d'énigmes magnifique et diversifié. Les graphismes sont beaux et nous pouvons interagir avec l'environnement. Les énigmes sont incroyables. Pour rentrer dans un des donjons, il faut donner un objet spécial pour en débloquer l'accès.
Merci Aurélien pour toutes ces informations qui nous permettent de mieux connaître ce jeu vidéo qui a l'air super en effet. Sortez vos consoles et vos manettes et à bientôt. Mais pour faire un bon jeu vidéo, il faut de bonne musique. Alors nous passons la main à Priscilla et à Océane qui vont faire le point sur les goûts musicaux des jeunes.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Océane. Bonjour.
Bonjour.
Que vas-tu nous présenter aujourd'hui ?
Je vais te parler de l'évolution d'écoute de la musique entre les différentes générations de nos jours. Pour cela, j'ai procédé à un micro-trottoir. J'ai interrogé des jeunes âgés de 12 à 18 ans et des adultes de 25 à 55 ans.
Super, eh bien, nous allons vous passer les enregistrements des jeunes et ensuite des personnes âgées.
Quel style et artiste de musique écoutez-vous ?
J'écoute du rap et mon artiste préféré, c'est Nino.
Et mon artiste préféré, c'est Adèle.
En chanteur d'aujourd'hui, j'écoute pas mal Nino.
Orlesan.
Comme vous aurez pu le constater, les jeunes de 12 et 18 ans écoutent en majorité du rap comme Ninho, mais aussi un peu de musique anglaise américaine. Nous allons vous passer un petit extrait de 15 secondes de la vie qu'on mène de Ninho.
Quand le rêve est trop long, le réveil est brutal. Black Panther, comme la daronne de Tupac. Les barreaux, les tropiques, on prendra l'argent tout pareil de toute façon.
Ensuite, nous allons écouter les enregistrements des personnes âgées.
Quel style de musique écoutiez-vous quand vous étiez ado?
Moi, j'écoutais le groupe AC/DC.
Coup de rock, alors les Rolling Stones, les Beatles, des groupes comme ça, hein, des années 60, 70.
Rock et le pop des années 80.
Tous les chanteurs des années 80.
Et boys band, Alliage, To Be Free, What's Up.
Rock voisine et les Innocents.
Avant, les personnes âgées écoutaient du AC/DC ainsi que les Inconnus de la variété française. En fait, ils en écoutaient plusieurs. Voici un extrait de Highway to Hell du célèbre groupe de rock AC/DC.
Effectivement, ce sont des styles de musique très différents d'aujourd'hui.
Et qu'écoutes-tu ?
Personnellement, j'écoute Suzy, mon titre préféré est Mère Cupidon Mère. Et toi ?
Moi, j'écoute Mosaïque Solitaire de Damso ou encore Clap Your Hands de Gunks qui est de l'Electro House.
D'accord. D'ailleurs, il existe un rappeur intergénérationnel qui plaît aux plus vieux comme aux plus jeunes d'aujourd'hui, du nom d'Orelsan. Et nous vous laissons avec Jade et Lindsay qui en ont fait son portrait.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons vous parler d'Orelsan et vous présenter quelques messages qui passent à travers ses textes.
De son vrai nom, Aurélien Cotentin, né à Alençon dans le département de l'Orne le 1er août 1982, Orelsan grandit en écoutant d'abord du rock et du métal. Ce n'est que sur les conseils de ses amis d'enfance que le français découvre l'univers du rap. Séduit par les références du genre musical de l'époque, Orelsan décide de se mettre à rapper. Exilé à Caen pour suivre son père muté, Orelsan poursuit simultanément ses études. C'est également à Caen qu'il fait la rencontre de Guillaume Tranchant, alias Gringe, avec qui il forme le duo Les Casseurs-Fauteurs.
Voilà pour la biographie d'Orelsan. Maintenant, parlons de sa musique, et notamment de son titre Basique, sorti le 20 septembre 2017. Avec ce titre, Orelsan annonce son retour en solo, tant attendu, 6 ans après son dernier album. Dès les premières secondes, il annonce la sortie d'un nouvel opus qui nous interpelle instantanément. La date imagée à la fin du clip vient le confirmer. Parti de 35 ans, n'a pas perdu sa langue. Il entame d'emblée son titre par une petite intro pour faire le point, expliquant qu'il compte faire un morceau simple avec un texte simple pour reprendre les fondamentaux, avant d'asséner son texte de punchline acerbe qui désherbe avec le flow typique de son personnage.
Orelsan a fait le constat très inquiétant d'une société au bord du crash.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite.
Le 17 novembre 2021, dans l'odeur de l'essence, le rappeur de Caen tire la sonnette d'alarme, nous appelant à ouvrir grand les yeux et les oreilles avant qu'il ne soit trop tard. À l'écoute, on comprend à quel point le titre du morceau est évocateur. L'odeur de l'essence y est associée à la chute d'une civilisation au bout du souffle qui peine à se renouveler. L'image, ou plutôt l'odeur du combustible, représente un signal d'alerte. Celui-ci signifie que tout est prêt à exploser et qu'il suffirait d'une étincelle pour que le monde tel que nous le connaissons parte en fumée.
Orelsan balance un coup de gueule plein d'humour dans du propre.
Ah bah c'est du propre, hey, c'est du propre. 5h du mat sur le port, un dernier shot, hey, c'est pour ma ville, sauce magique beau gosse,
hey, sauce magique, sauce hey, magique.
Mort en ville quand elle est morte,
mort en ville quand tout le monde dort.
Autopilote.
Avec ce titre sorti le 19 novembre 2021, il clash à la fois quelques rappeurs, mais aussi les rageux qui descendent sur leurs réseaux sociaux. En résumé, le rappeur de Caen s'adresse à ceux qui trouvent relou. Au niveau du thème, le titre du morceau donne déjà le ton. Alors que les rappeurs utilisent l'expression « du sale à tout va », Orelsan y préfère l'exact opposé, du propre, marquant son détachement de ce qui se fait dans le game et de son envie de ne pas y ressembler.
Et pour finir, dans La Quête, qui est sorti le 3 mars 2022, Orelsan retrace sa jeunesse avec beaucoup de tendresse.
À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête.
De l'enfance à la vie, de jeune adulte en passant par son adolescence, le rappeur nous raconte son évolution à coup de souvenirs. Sur une instru aux allures enfantines, Orelsan nous invite à voir le monde changer à travers ses yeux. Le résultat est aussi attendrissant que mélancolique et transmet un message universel. profiter de la vie. Pour cela, l'interprète de Basic dresse un tableau évolutif qui décrit au fur et à mesure qu'il grandit sa relation avec sa famille, sa vie sociale ou encore scolaire. Nous assistons à sa transformation à mesure qu'il réalise que la vie n'est pas si simple, mais pas si mal non plus. Et maintenant, nous laissons la parole aux garçons qui vont vous parler du hip-hop.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes sur Radio Freinet et aujourd'hui nous allons vous parler d'un style de musique mondialement connu. Donc sortez votre plus beau freestyle, mettez votre casquette à l'envers, lancez le beat et laissez-nous vous raconter la fabuleuse histoire du hip-hop. You know how we do it. Tout commence dans les années 70 dans les rues du Bronx, à l'époque du rock'n'roll, le jazz et compagnie, des rassemblements entre afro-américains ont lieu et finissent en clash. Le rap battle est né. Au fur et à mesure du temps, le MC, qui veut dire en français le maître de la cérémonie, rajoute son freestyle pour ambiancer le public. Enfin, tout est prêt et maintenant faites tourner les platines, le rap arrive. En 1980, The Sugar Hill Gang, un groupe de rappeurs américains, sort le premier son de l'histoire du hip-hop, Rapper's Delight.
D'autres groupes de rappeurs vont se mettre à sortir leurs sons et petit à petit le rap évolue et il commence à devenir de plus en plus indépendant et un jour un rappeur de groupe NWA assez performant décide de suivre sa route et de lancer sa propre carrière. Dr. Dre est né.
Un jour, Dr. Dre décide de fonder son propre label et il est totalement indépendant. Il crée son beat, son texte et le sort. Son premier album The Chronic, sorti en 1992, remporte un petit succès aux States et lui permet de se faire un nom. À lui, mais aussi à l'un de ses amis Snoop Dogg, qui apparaît sur quasi tous les morceaux de l'album. En 1997, Dr. Dre fait la rencontre d'un jeune rappeur blanc de Détroit qui ne trouve pas le succès. Ce dernier passe une audition avec Dr. Dre et il l'épate. Il rappe vite et la légende raconte qu'il aurait écrit son premier son avec Dr. Dre, My Name Is. Deux ans plus tard, en 1999, Dr. Dre sort un nouvel album qui va marquer l'histoire du hip-hop. Il est nommé 2001. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep.
Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga, guess who's back? Dans ces albums légendaires, il y a des sons iconiques, du rythme et une bonne dose de culture West Coast de la Californie. Et il y a des feats avec Eminem, Snoop Dogg et bien d'autres.
Pendant ce temps en France, le rap fait ses débuts dans les années 1990 avec MC Solar ou encore le groupe NTM. MC Solar sort l'album Bouge de là et NTM Je rappe. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là.
Bouge de là. Au début des années 2000, il y a deux albums plutôt intéressants. The Marshall Mathers LP de Eminem et The Eminem Show de Eminem encore, et c'est surtout dans ce dernier qu'il va faire un énorme carton. 12 millions de ventes aux USA et de multiples fois disque de platine. Le titre Without Me résume l'album et est l'un des plus gros tubes d'Eminem.
Dans cet album, il se plaint d'être constamment sous les projecteurs à cause de ses punchlines et ses clashs avec de nombreuses célébrités. Et au fur et à mesure, il fait la une de tous les people comme s'il animait son propre show, d'où le nom de l'album. Booba avec son album Temps Mort et Lunatic avec Mauvais Oeil font le hit dans les années 2000.
Je suis plein de textes, ils sont souvent tristés. Je marche sur des roses rouges, pas de lyrics, salauds de roses pistés. Parle mal, des PD dans le rap, parle mal. Je me comprenne, font la boule pour qu'ils se prennent, mes lyrics s'imprègnent. Lunatic jusqu'à l'infini, ici c'est la merde. La jungle urbaine, plein de faux.
A partir des années 2010, le rap français prend de l'ampleur avec des artistes comme Jul, Nekfeu, Kaaris, Orelsan, PNL.
2012, l'arrivée de la trap en France, style de rap un peu plus poussé, le featuring entre Booba et Kaaris avec l'album Kalash, marqué de punchline en particulier avec le couplet de Kaaris qui a retenu l'attention de tout le monde. En 2020, Ninho est le rappeur le plus certifié dans l'industrie musicale française avec 576 apparitions. Il sort Lettre à une femme en 2020, un autre album qui a aussi fait un gros carton, Réfé.
Réfé, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qu'on a changé, c'est peut-être le prix du blouson.
Le hip-hop, c'est le mélange entre la culture afro-américaine et la battle où ils allumeraient leurs adversaires avec leurs paroles bien placées. Aux grandes stars qui collectionnent les awards, le hip-hop, c'est ça.
C'était les élèves du collège Géodélib, à bientôt sur Fréquence 6.